Bon, merci Steve et toute son équipe pour ces beaux chants. Toujours bien de chanter les louanges du Seigneur, l'exalter, le louer, le glorifier. Alors, je vous invite à prendre vos Bibles et tourner au livre d'Exode. Exode chapitre 15. Et nous allons lire à partir du verset 22. Exode 15, 22. Et ce matin, nous voulons aborder le sujet, comme vous avez à l'écran, apprendre à avoir confiance en Dieu, même dans les circonstances difficiles. Et vous remarquerez que je n'ai pas dit « dans les circonstances faciles », parce que n'importe qui peut faire cela. Mais autant que c'est facile d'avoir confiance en Dieu quand la vie est facile, autant c'est difficile d'avoir confiance en Dieu quand la vie est difficile. On pourrait bien se poser la question, mais d'où cela vient-il? Comment se fait-il qu'on a tellement de difficultés, si on est vraiment honnête, là, de faire confiance à Dieu quand la vie est difficile? J'aimerais vous suggérer cela a commencé dans le jardin d'Éden, quand le serpent Satan a dit à Ève, « Dieu a-t-il réellement dit? » C'était tout un appât. Et Ève, malheureusement, vous connaissez tous l'histoire, elle a mordu à l'hameçon, et c'est là que ça a commencé. Adam il a suivi. Et vous savez, c'est la malédiction maintenant de la race humaine, l'incrédulité. Et même après notre conversion, nous luttons aussi avec cette problématique. Alors Dieu a commencé un processus de rééducation pour nous apprendre justement à ses enfants de lui faire confiance. Et si vous prenez votre Bible et vous lisez d'un bout à l'autre, Genèse à l'Apocalypse, vous allez voir la vie des hommes et des femmes de Dieu, tels que Noé, Abraham, Isaac, Jacob, Joseph, Jochebed, la mère de Moïse, Moïse lui-même, Josué, Déborah, Ruth, et j'en passe, David, ils ont été tous à l'école de Dieu pour apprendre cette leçon si précieuse, avoir confiance en Dieu. Pourquoi en est-il ainsi? Pourquoi il faut aller à l'école pour apprendre cette leçon? Parce que la Bible nous dit que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Notre conversion a commencé par un acte de foi, Éphésiens 2:8. C'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Et notre sanctification continue dans la foi. Et c'est ce que Dieu fait. Il teste notre foi. Il exerce. C'est comme un muscle. Il a besoin d'exercice. Dieu va l'exercer. Qu'on soit un David, qu'on soit Abraham, qu'on soit même le peuple d'Israël, dans le texte pour ce matin, Dieu est toujours à l'œuvre pour faire travailler ce muscle-là, pour produire et augmenter notre foi. Et ce matin, nous allons considérer alors ce texte et le but de Dieu dans cet exercice qu'on puisse un jour passer le test. Alors lisons, s'il vous plaît, Exode chapitre 15, verset 22. Moïse fit partir Israël de la mer Rouge. Ils prirent la direction du désert de Shur. Et après 3 journées de marche dans le désert, ils ne trouvèrent point d'eau. Ils arrivèrent à Mara, mais ils ne purent pas boire l'eau de Mara parce qu'elle était amère. C'est pourquoi ce lieu fut appelé Mara. Le peuple murmura contre Moïse en disant, « Que boirons-nous ? » Moïse cria à l'Éternel. L'Éternel lui indiqua un bois qu'il jeta dans l'eau. Et l'eau devint douce. Ce fut là que l'Éternel donna au peuple des lois et des ordonnances, et ce fut là qu'il le mit à l'épreuve. Il dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Ou Jéhovah Rapha, quel beau titre. Ils arrivèrent à Élim, où il y avait 12 sources d'eau et 70 palmiers. Ils campèrent là près de l'eau. Et ce matin, en considérant ce texte, j'aimerais vous donner trois raisons. Trois raisons pour quoi nous devrions avoir confiance en Dieu. Alors, dans un premier temps, apprenons à avoir confiance en Dieu à cause de sa connaissance parfaite. À cause de sa connaissance parfaite. Dieu est digne, justement, de notre confiance. À cause du fait qu'il connaît parfaitement toutes choses. Et dans ce texte ici, dans ce contexte, il connaissait parfaitement la destination de son peuple. Regardez encore votre texte au verset 22, où nous lisons, « Moïse fit partir Israël de la mer Rouge. » Et on va mettre ça dans le contexte. Israël se trouve à côté de la mer Rouge. Je vous rappelle l'histoire. Il y a eu la confrontation avec Pharaon, Moïse et Aaron. Pharaon était le grand perdant. Il a essayé de se mesurer à Dieu, il a perdu. Et là, les enfants d'Israël quittent l'Égypte après à peu près 400 ans d'esclavage, la tête haute, s'en va dans la terre promise. Et là, tout est beau, la vie est belle. Ils ont vu la puissance de Dieu. Pharaon va les poursuivre. Dieu va ouvrir la mer Rouge. Israël traverse à pied sec. Pharaon et son armée essayent de faire la même chose, puis cloup, sont engloutis. Et même pour tout boucler cela, ils ont eu une réunion d'adoration, comme nous avons eu ce matin. Dans le chapitre 15, on lit que Moïse et les enfants d'Israël ont chanté un beau cantique à l'Éternel. Puis là, ils sont en train de louer Dieu. L'Éternel est ma force, ils vont dire. Verset Exode 15, « Et le sujet de mes louanges, c'est lui qui m'a sauvé. Il est mon Dieu, je le célébrerai. Il est le Dieu de mon pain, je l'exalterai, etc. etc. » Et en plus de tout cela, il y avait un homme, leader, un bon leader qui était Moïse. Et pour combler tout cela, il y avait la présence de Dieu. Il y avait la colonne de nuée, la colonne de feu. Bref, la vie était belle. Quelle bénédiction! Mais vous savez, à côté de la mer Rouge, humainement parlant, était un endroit, comme je disais, il faisait bon vivre. Et s'il voulait s'établir, mais écoute, il n'y avait pas de problème, il y avait la mer qui, j'imagine, abondait, il y avait du poisson à l'abondance, il pouvait aller à la pêche, et même peut-être creuser des puits pour avoir l'eau. Puis s'il établit, puis that's all. Mais le texte dit que Dieu fit partir Israël de la mer Rouge. Et pourquoi est-ce que nous avons cela dans la parole de Dieu? Parce qu'à côté de la mer Rouge n'était pas la destination finale du peuple. Dieu les avait délivrés de l'esclavage en Égypte. Il avait promis de les amener dans la terre promise, un pays où coulait le lait et le miel, un pays où il y avait les ennemis redoutables. Vraiment. Fort, puissant. Mais c'était une occasion par excellence pour ce peuple-là de faire confiance au Seigneur. Dieu les avait assurés d'avoir la victoire en se confiant en lui. Et comment est-ce qu'on a acquis cette confiance? Comme nous avons déjà vu au début, ce n'est pas facile. Ce n'est pas dans notre nature de faire confiance à Dieu, mais Dieu avait un plan. De le faire passer à travers le désert, de le faire rencontrer des situations difficiles dans le but d'exercer ce muscle-là qui est la foi, la confiance dans le but de leur apprendre que Dieu était digne de confiance. Vous lisez un texte que Moïse a cité 40 ans plus tard. Il va dire ceci. « Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années. » Ça, c'est à la fin du pèlerinage. « Afin de t'éprouver, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur, dans quel but, afin de t'apprendre que l'homme ne vit de pain seulement, mais de tout ce qui sort de la bouche de Dieu. » Voilà. Fais confiance à Dieu, fais confiance dans sa parole, fais confiance dans ses déclarations. Et ça, c'était le but, justement, pourquoi le Seigneur ne les a pas laissés à côté de la mer Rouge, même si la situation et la vie étaient belles, la situation était rose. Dieu savait qu'en Canaan, même au milieu de l'ennemi, c'est beaucoup mieux d'avoir cette situation-là avec une foi forte que d'être à côté de la mer Rouge avec une foi qui est faible, ou pas du tout. Pas de foi du tout. Et vous savez, il y a un parallèle ici avec justement l'enfant de Dieu. Parce que vous et moi aussi, nous avons une destination finale. Et je ne parle pas d'ici du ciel. Dieu nous a dit qu'il nous a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, Jésus-Christ. Dans Romains 8, 29, nous avons ceci. Ceux qui a connu d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. C'est ça où ce que Dieu veut nous amener. Comme les enfants d'Israël, il les a fait faire un trajet pour fortifier leur foi, pour les amener justement à lui faire confiance. Dieu aussi fait un processus parallèle, semblable avec nous, pour nous amener justement à ressembler de plus en plus à Jésus-Christ. Et qu'est-ce qui a caractérisé justement la vie de Christ pendant son ministère terrestre? C'était sa foi inébranlable dans la parole et les déclarations de son Père. Vous allez vous rappeler de la tentation. À trois reprises, l'ennemi vient à la charge. Si tu es fils de Dieu, ou puisque tu es fils de Dieu. À trois fois. Et qu'est-ce que le Seigneur répond? Il est écrit. Il est écrit. Il est écrit. Il y avait une foi inébranlable dans la parole de Dieu, qui était la déclaration de Dieu. Et il n'y avait rien qui pouvait le faire, justement, bifurquer de ce chemin-là. Quelle démonstration de foi. Et la question que je vous pose, et je me pose ce matin, avons-nous une telle foi dans la parole de Dieu? Vous savez, Dieu sait où vous en êtes rendu dans votre marche avec lui, marche de foi. Mais il sait une chose aussi, il sait parfaitement quelle est votre destination finale, la ressemblance à son Fils Jésus-Christ. Il sait comment nous devrions y être. Deuxièmement, Dieu connaît non seulement la destination, mais aussi il connaît la direction. Il connaît la direction. Quel chemin faut-il prendre pour y aller de point A à point B? Le texte dit, ils prirent la direction désert de Shur, au verset 22b. Alors, ils partent de la mer Rouge, ils vont prendre maintenant la direction du désert de Shur. Laissez-moi vous poser une question. Comment est-ce que les enfants d'Israël savaient quelle direction prendre? Parce que Moïse était là, puis il dit, écoute, on va jouer à pile ou face. Si c'est pile, on s'en va par là. Puis si c'est face, on s'en va par ici. Non, non, non. Exode 13, pas besoin d'y tourner, mais nous donne la réponse. L'Éternel allait devant le peuple. C'est ça, justement, Dieu guidait le peuple. Il allait devant le peuple, non pas derrière, le jour dans une colonne de nuée pour les guider, dans le chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer afin qu'ils marchent jour et nuit. Alors, ils ont pris la direction du désert de Shur, tout simplement parce que Dieu les avait conduits dans cette direction. C'est tout. Et quel encouragement pour nous de savoir que Dieu connaît non seulement la destination finale, mais connaît aussi la direction pour s'y rendre. Et dans sa connaissance infinie et parfaite, il a tracé un chemin précis et exact pour chacun de nous. Et il s'engage aussi à nous guider et nous conduire dans ce chemin, pour nous amener justement à notre destination finale, la ressemblance à son Fils. Je vous lis un beau texte dans Psaume 23, vous le connaissez tous. David va dire ceci en parlant du berger: il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Là, quelqu'un pourrait se poser la question, mais qu'est-ce qui arrive si je suis désobéissant? Comme on dit en bon québécois, je fais à ma tête. Je ne suis pas le berger. Je prends un détour. Vous savez, cela peut nous arriver à nous tous, soit par désobéissance ou même par ignorance. On peut prendre un chemin quand on est tout à fait convaincu que c'est par là que le Seigneur nous amène, puis on est tout à fait complètement dans l'erreur. Laissez-moi vous dire que Dieu n'est pas pris par surprise, toujours en contrôle, et même quand on prend un détour, il est capable de nous amener et nous ramener au casier de départ. Deux exemples. Dans la vie d'Abraham, Abraham s'en va dans la terre promise, il y a une famine, qu'est-ce qu'il fait? Il lève ses tentes, s'en va en Égypte. Qu'est-ce qui arrive? Il récolte du trou. Mais qu'est-ce que Dieu fait? Il ramène. Point de départ. C'est là qu'il devrait être. Nous avons aussi Élie, fait un grand spectacle sur le mont Carmel. Le feu descend du ciel. Ils vont tuer les prophètes de Baal. Et après ça, il y a Jézabel, cette femme méchante, fait des menaces. Et là, il sauve. Il s'en va dans le désert. Il va se cacher, terrer dans une caverne. Qu'est-ce que Dieu fait? Il s'en va le rencontrer. C'est quoi sa question? Que fais-tu ici, Élie? Reprends ta chemin. Va, retourne, casier de départ. J'aime beaucoup les promesses de la parole de Dieu, parce que même quand nous sommes infidèles, Dieu lui reste fidèle. Et vous savez, dans Psaume 48, 15, c'est tellement une belle promesse. Voilà le Dieu qui est notre Dieu éternellement et à jamais. Il sera notre guide jusqu'à la mort. Et même au-delà de la mort. Parce que vous avez un texte dans Apocalypse chapitre 7, où est-ce que vous avez ceux qui viennent de la grande tribulation. Et nous lisons là que l'agneau qui est au milieu du trône les pétra. Et il n'aura plus faim, il n'aura plus soif. Et là, nous lisons ces belles paroles. L'agneau qui est au milieu du trône les pétra et les conduira aux sources des eaux de la vie. Et Dieu essuiera toutes larmes de leurs yeux. Même dans l'éternité, Dieu est en train de conduire son peuple. Alors, laissons ce travail avec le Seigneur. Et comme j'ai dit, même si on se trompe, il est capable de nous ramener au casse-départ. Alors, non seulement Dieu connaît parfaitement la destination, connaît parfaitement la direction, mais connaît aussi la déception que le peuple allait vivre. Et en parlant de déception, laissez-moi vous dire que si vous n'êtes pas encore convaincu, la vie est pleine de déception. Israël a vécu. Vous l'avez probablement vécu dans le passé. Vous êtes peut-être ce matin en train de le vivre ou vous la vivrez dans le futur. Mais tôt ou tard, on va rencontrer les déceptions dans notre vie. Regardez le texte encore, si vous voulez. Nous lisons au verset 22. C'est après trois journées de marche dans le désert ils ne trouvèrent point d'eau. Ils arrivèrent à Marah, mais ils ne purent pas boire l'eau de Marah parce qu'elle était amère. C'est pourquoi ce lieu fut appelé Marah. Le peuple murmura contre Moïse en disant, que boirons-nous? Et quelle déception pour Israël. Les choses n'allaient pas comme prévu. Si vous vous rappelez des paroles de Moïse, que Dieu avait dit à Moïse, et même Moïse avait répété à Pharaon, il a dit, laisse-nous partir. On va aller dans le désert, on va faire 3 journées de marche, et nous allons offrir des sacrifices à l'Éternel, notre Dieu. Ça aurait dû être une fête, une célébration. Qu'est-ce que vous avez dans le texte ici? Vous avez un désastre humainement parlant. Toute une communauté de peuples là dans un désert sans eau. Hey, ce n'était pas sur le programme, ça. Quelle déception. Et pire encore, quand ils vont trouver l'eau, elle n'est pas buvable. Le texte nous dit qu'elle avait un goût amer. Ça, c'est la signification de Marah. Si vous voulez avoir une bonne illustration québécoise, elle était dégueulasse. Et qui est-ce qui les avait amenés dans cet endroit? Posez-vous la question. Ils suivaient la colonne de feu, la colonne de nuée. C'est Dieu qui les a amenés là. Et Moïse, son serviteur, qui suivait fidèlement Dieu. Quelle déception. Et quelle réaction? Le texte nous dit que le peuple murmura contre Moïse. Et ça, c'est un revirement radical d'attitude. Chapitre 14, après cette victoire éclatante, nous lisons ceci. Israël vit la main puissante que l'Éternel avait dirigée contre les Égyptiens. Et le peuple craignit Moïse et il crut en l'Éternel et en Moïse son serviteur. Ça, c'était quand tout allait bien. Pharaon était au fond de la mer avec son armée. Oh, c'est beau. Ah, Dieu est fort. On aime Dieu. On aime Moïse. Let's go. Et même, ils avaient dit à Dieu, qui est comme toi? Oh, Dieu, parmi les dieux, qui est comme toi? Magnifique en sainteté, digne de louange, opérant des prodiges. C'est ce qu'ils avaient dit. Où étaient les chants? Où étaient les louanges? Où était leur foi? Comment est-ce qu'on peut expliquer justement ce revirement radical? On passe des louanges au murmure. On va donner raison à Dieu de les avoir conduits à Marah. Je vous dis pourquoi. Parce que leur réaction face à cette situation difficile est très révélatrice. Ça démontre ce qu'ils avaient dans le cœur. Et ces beaux chants, ces belles louanges, Dieu est fort, Dieu est puissant, on aime Dieu, wow! On voit vraiment où était le fond de leur pensée. Tu es capable, dès l'instant, justement, de faire un revirement total, critiquer Moïse. Le cœur n'était pas à la bonne place. Ils avaient besoin, justement, de ce test. Et comment est-ce qu'on sait où était leur priorité? Avez-vous remarqué au verset 24b, le peuple va dire ceci, que boirons-nous? Et ça, c'est la clé de la situation. Le peuple, dans cette situation, focalise, difficile, va focaliser, non pas sur Dieu, qui les avait sauvés, qui avait opéré des prodiges à leur égard, et qui pourrait le faire encore, mais ils vont focaliser sur le besoin matériel, le besoin d'eau. Et il est prêt même à parler contre Moïse, l'attaquer verbalement quand ce besoin n'est pas comblé. Il faut être clair ici, c'est un besoin légitime. Mais du fait que ce peuple-là est prêt à murmurer, à attaquer Moïse, tombe même dans le péché, nous montre que cette priorité, même pour un besoin légitime, est déplacée, pas la bonne place. Et c'est pourquoi ils ont vécu cette grande déception. Et chers amis, montrez-moi une femme qui fait une priorité d'un besoin aussi légitime soit-il. Et je vous montrerai quelqu'un qui est mûr pour une déception. Vous savez pourquoi? Parce que quand on priorise des choses, que ce soit l'argent, le confort, le prestige, le pouvoir, qu'importe, ça c'est ce qu'on appelle l'idolâtrie. Et ça c'est très révélateur parce que ça nous démontre que notre foi n'est pas à la bonne place. C'est dans les choses, au lieu de les placer en Dieu. Et la parole de Dieu nous dit simplement, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Et combien c'est salutaire pour Dieu de nous tester, pour nous prouver, pour nous justement nous démontrer que trop souvent notre cœur n'est pas à la bonne place. Et notre réaction dans les situations difficiles va simplement le démontrer. Vous savez, probablement ce matin, je parle à quelques-uns, vous avez été profondément déçus par des circonstances de la vie. Des déceptions peuvent venir de partout. On peut être déçu de notre mari, même notre femme, nos enfants, notre travail, notre physique, même notre frère, notre soeur dans le Seigneur, notre gouvernement, j'en passe. Et la vie est pleine de déceptions et sera toujours pleine de déceptions si on focalise sur au mauvais endroit, sur nos besoins au lieu de focaliser sur Dieu. Et savez-vous que ça peut nous amener même à l'amertume, un marasme spirituel, situation difficile qu'on dit en bon québécois, je ne l'ai pas digéré. Ce n'est pas mon sujet ce matin, l'amertume, parce que c'est un vaste sujet et ça fait des ravages et des dommages incroyables. Mais vous savez, il y a un texte qui dit qu'on devrait ne pas se priver de la grâce de Dieu. Et deuxièmement, quand on est pris avec l'amertume, c'est une évidence du manque de foi. Si vous êtes dans une telle situation, je peux vous dire que Dieu est gracieux, sa grâce est suffisante. Celui qui confesse ses péchés, qui les avoue, qui les délaisse, obtiendra miséricorde. Et Dieu est capable de guérir, de restaurer, de penser, changer justement un cœur. Et comment est-ce qu'il va faire cela? Mais là, c'est notre deuxième point. Il vous amène maintenant à regarder, apprendre à avoir confiance en Dieu. Non seulement à cause de sa connaissance parfaite, il sait où est-ce qu'il mène notre barque, mais aussi de sa compétence parfaite. Et ça, c'est la clé. Ça, c'est la clé. Pour éviter justement d'être comme les enfants d'Israël et murmurer dans une situation difficile, de faire confiance. Dieu est entièrement, parfaitement compétent. Il sait ce qu'il fait. Il sait ce qu'il s'en va. Et j'aime beaucoup la réaction de Moïse. Moïse cria à l'Éternel. Quel contraste avec le peuple. Le peuple, en s'entendant, crier contre Moïse, crier contre Dieu. Moïse, lui, crie à l'Éternel. Comment est-ce qu'on peut expliquer cette différence? Mais j'aimerais vous suggérer que Moïse avait justement cette foi. Il croyait que Dieu était en contrôle. Et celui qui les avait fait sortir d'Égypte, avec puissance, était capable aussi d'agir de la même manière, même devant une situation presque impossible. Dieu ne les avait pas fait sortir d'Égypte pour les amener à Mara pour dire « Oups, je me suis trompé. Désolé, on va essayer encore. » Dieu était parfaitement en contrôle et Moïse était conscient, il était convaincu de cela. Comment est-ce qu'il démontre cela? Mais c'est par sa supplication. Moïse cria à l'Éternel. Il va vers Dieu, il va déverser son cœur devant lui. J'aime beaucoup le texte de Psaume 73 qui dit ici, « Quel autre ai-je au ciel que toi? » Psaume 31, 15, 16 nous dit ceci, « Mais c'est en toi que je me confie au Éternel. Je dis, mes destinées sont dans tes mains. » Et Moïse avait bien appris cette leçon, « Afrique, qu'on soit à Maroc, qu'on soit à la mer Rouge, qu'on soit n'importe où, Dieu était en contrôle. Et là, il va aller devant Dieu et dire, tu es au ciel, nous sommes sur la terre, nous avons besoin de toi, nous dépendons de toi, nous avons confiance en toi. Quel homme de prière et de supplication. Et deuxièmement, Moïse va faire confiance en Dieu en prenant la solution que Dieu va lui offrir. Vous savez, la solution, c'est un peu bizarre. L'Éternel lui indiqua un bois. C'est quoi le rapport? Hein? Mais j'aimerais faire remarquer trois choses ici à propos de Moïse. S'il était capable, si Dieu était capable de lui indiquer un bois, cela nous démontre que Moïse s'attendait à recevoir une réponse à sa supplication. Très souvent, on va prier, puis là, on est dans le doute. Ouais, Dieu, je ne sais même pas s'il m'a entendu. David dit dans son 28, « Écoute la voix de mes supplications quand je crie à toi, quand je lève mes mains vers ton sanctuaire. » Alors, Moïse était certain que Dieu l'avait entendu, puis il attendait la réponse. C'est pourquoi il était capable justement de déceler justement la réponse que Dieu allait lui donner, même si c'était bizarre. Si Dieu avait dit, ah, tiens, je vais te montrer un rayon de miel. Ah oui, l'eau est ta mère, on va prendre du miel là-dedans, ou bien du lait, quelque chose de même, mais il y a un bois. Mais Moïse, il y a tellement de foi en Dieu que même si la réponse ou la solution ne paraît pas comme logique, il va le prendre. Et troisièmement, il va obéir à Dieu, il va jeter le bois dans l'eau. Le résultat, l'eau devient douce. Quel miracle, hein? Dieu, il fait des choses extraordinaires, des choses qui nous épatent. Et je vous donne un exemple ici, vous rappelez l'histoire de Naaman, le Syrien, qui était un lépreux, qui était allé voir Élisée, puis qui voulait être guéri. Ça, c'est tout à fait... bien légitime, mais il voulait être guéri à sa manière. Il allait voir et dit, je pensais que le prophète il se présenterait devant moi, il agiterait sa main, wadadam, puis c'est, je serais guéri. Il n'est même pas pris de peine de sortir, d'y envoyer son serviteur. Il était fâché. La Bible dit qu'il se retournait, hey, si c'est comme ça, là, je garde le malade, puis je m'en retourne chez moi. Ce serviteur a dit, mais écoute, si le prophète avait demandé de faire quelque chose de difficile, ne reçu pas fait. Mais fais ce qu'il te demande, va dans le Jourdain puis lave-toi cette fois. Finalement, il a eu le bon sens d'écouter ses serviteurs, il est allé se laver, puis sa chair est devenue saine comme la chair d'un bébé. Ça nous démontre justement que nous avons tous besoin de foi dans ces circonstances difficiles. Et troisièmement, Dieu va utiliser cette situation pour amener le peuple dans la voie de la sanctification. Juste rapidement, je vous donne deux choses qui sortent ici. Il n'y a rien qui est perdu dans l'économie de Dieu. Même si le peuple a mieux mûri, même si le peuple n'était pas dans la situation ou dans le camp n'était pas à la bonne place, Dieu est tellement gracieux. Il va utiliser cette situation-là pour les encourager dans la voie de la sanctification. Il va leur donner des lois. Puis il va leur donner aussi une révélation de sa personne. Je suis Jéhovah Rapha, l'Éternel qui te guérit. Et quelle bombe pour l'âme, hein, de savoir que dans n'importe quelle situation difficile, quand on tourne vers Dieu, quand on prend la solution de Dieu, nous pouvons justement surmonter cette difficulté. Et apprendre aussi, et avancer dans la vie de sanctification. Il y a une leçon ici que j'aimerais vous dire rapidement en ce qui concerne la solution de Dieu. Parce que très souvent, quand on est porté à murmurer, à critiquer dans les situations difficiles, on se voit comme une victime, on se plaint. Vous savez, il y a deux choses à faire. Se focaliser sur Dieu, oui, ça c'est la solution de Dieu. Mais si on est porté à se plaindre, j'aimerais vous suggérer de considérer la personne du Seigneur Jésus-Christ. S'il y a quelqu'un là, qui avait besoin, qui avait une raison légitime de se plaindre, c'était lui. Dès sa naissance, né dans une étable, il n'y avait même pas de place pour lui dans, à l'hôtellerie. Rejeté par un compatriote à Nazareth, harcelé par les chefs religieux, trahi par Judas, renié par Pierre, abandonné par son père. Tout cela, est-ce qu'il est devenu amer? Non. Et quel modèle pour nous, dans une situation semblable, de considérer le Christ et de prendre la solution de Dieu. Ma grâce suffit. Ma grâce suffit. Et de croître dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Et troisièmement, apprenons à avoir confiance en Dieu dans les situations difficiles, à cause de sa connaissance parfaite, à cause de sa compétence parfaite, mais aussi à cause de ses compassions parfaites. Et laissez-moi vous dire ce matin que les compassions de Dieu ne sont pas à leur terme. Verset 27, quel beau texte. Ils arrivèrent à Élie. Il y avait là 12 sources d'eau, 70 palmiers. Ils campèrent là près de l'eau. C'est ce que j'appelle après-mara. Le repos, le rafraîchissement. Dieu est tellement fidèle. Il ne nous permettra pas que vous soyez testés ou éprouvés au-delà de vos forces. Mais avec l'épreuve, la tentation, il préparera aussi un moyen de s'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Et le même Dieu qui les a amenés à Mara pour leur montrer ce qu'ils avaient dans le cœur et pour exercer le froid, c'est le même Dieu qui va les amener maintenant à Élie. Ils avaient besoin d'eau, mais là, il y avait l'eau en masse. 12 puits d'eau. 12 sources, une pour chaque tribu, si vous voulez. Et comment Dieu est tellement gracieux. Vous savez, je termine avec une petite illustration. Quelques-unes, peut-être vous avez déjà entendu. Il y avait un banquet qu'on avait donné justement pour les personnes qui étaient là. Puis, en parlant, les gens sont tombés sur des choses religieuses. Pareil. Puis là, ils ont décidé de faire un concours, réciter le psaume 23. Et là, un après l'autre, ils ont récité le psaume 23. Et finalement, il y avait un orateur célèbre qui s'est levé, puis commençait à réciter le psaume 23. Puis quand il s'est assis, tout le monde s'est applaudi. Et finalement, il y avait un vieux prédicateur qui était là, puis il se lève, puis il récite le psaume 23. Et quand il a terminé, il y avait le monde avait les larmes aux yeux. Et cet orateur est allé voir le monsieur, il a dit, écoute, moi je connais le psaume 23, mais cet homme ici, il connaît le berger du psaume 23. Et ce matin, j'aimerais vous laisser avec justement cela. Dans le psaume 23, David va dire ceci, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, il me fait reposer dans le vert pâturage, il me dirige près des eaux paisibles, mais il restaure mon âme. Et ça, c'est l'énigme. La vie aura, oui, des situations difficiles, mais ce sont les occasions par excellence, justement, pour exercer notre foi. Et après, justement, le mara, il va y avoir toujours les lignes où est-ce que Dieu va restaurer notre âme. Alors, ma prière pour vous, pour nous tous, c'est est-ce que vous connaissez vraiment le bon berger? Ça, c'est la question qu'il faut se poser en terminant. Si vous ne connaissez pas comme votre sauveur personnel, il est toujours là, les bras ouverts pour vous accueillir du brebis égaré. Jean nous dit que le Seigneur a dit, je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Et la deuxième question, est-ce que nous sommes sauvés et nous connaissons le berger? Est-ce que nous lui faisons vraiment confiance? On va prier. Seigneur, nous te remercions pour ta parole qui est la vérité. Quel Dieu merveilleux tu es, qui a promis de jamais nous délaisser, jamais nous abandonner. Seigneur, tu connais tes brebis, c'est toi le berger. C'est toi qui s'est engagé de nous conduire dans le vert pâturage et de restaurer nos âmes, même dans les situations difficiles. Fais du bien, Seigneur, à ton peuple. S'il y a quelques-uns ici ce matin qui ont le cœur brisé, qui ont vécu des choses difficiles, mets un baume sur ce cœur dans l'heure de l'espérance. Et Seigneur, apprends-nous tous à te faire confiance. Tu es tellement digne. Tu es un Dieu qui ne ment point. Un Dieu qui est fidèle. Un Dieu qui est amour. Un Dieu qui a démontré cet amour en nous donnant ton Fils à la croix pour nos péchés. Pardonne notre incrédulité, notre Dieu, nous te prions, et donne-nous à te faire confiance pleinement, afin que nous soyons de plus en plus agréables à ta personne. Nous demandons ces choses au nom de Jésus. Amen.